Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le premier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouge, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy, bonjour Bernard.
Au sommaire de ce Variation en noir de rentrée, de reprise, de continuité aussi, puisque nous voilà, Hervé, embarqué pour une nouvelle année radiophonique de Variations en noir, et toujours dans l'émission Variation de Bernard, qui ne s'est pas encore lassé de cette touche noire que nous donnons une fois par mois à son émission. Petite nouveauté à noter.
Merci à lui.
Oui, petite nouveauté à noter. Nous passons du dernier vendredi du mois au premier vendredi. Je ne pense pas que cela perturbe nos auditrices et auditeurs. Au sommaire, donc, ce mois-ci, un classique de Variation en noir avec un gros plan sur le dernier numéro de la revue 813 et aussi un roman sorti un peu avant l'été. Oui, les romans de la rentrée, hein, nous verrons ça un peu plus tard, Hervé. Un roman donc sorti un peu avant l'été, mais dont nous avions envie de vous parler, Dodgers de Bill Beverly au seuil policier. Alors Hervé, belle surprise pour les adhérents de 813, cet été, au milieu de l'été, nous avons reçu le dernier numéro de la revue. J'ai pas le souvenir que ce soit déjà produit, que la revue arrive comme ça en plein milieu de l'été.
Voilà, il y avait comme ça, c'était je crois que c'était au tournant des deux gros mois d'été. Donc, pour ceux qui rentraient, ils trouvaient 813, et ceux qui allaient partir, ils pouvaient l'emmener en vacances.
Alors, pour ceux qui allaient partir, il valait mieux pas trop se plonger dans dans ce numéro, parce que il risquait de se charger énormément les valises, tellement il y a des pistes très intéressantes de lecture. Et à commencer, Hervé, par celle que tu évoques dans l'édito, hein, de ce numéro. C'est le numéro 125, oui. Avec donc un ouvrage, hein, sur lequel tu reviens, qui vient d'être réédité. Alors le titre initial, c'est Le crime à l'américaine, mais dans la nouvelle parution en poche aux éditions Nouveau Monde, ça s'appelle Histoire criminelle des États-Unis. Hervé,
voilà, c'est cela, un livre de Frank Browning et John Gerassi, voilà, qui est une sorte, c'est il y a longtemps dans ses chroniques, c'est Jean-Patrick Manchette qui évoquait ce livre, et c'est comme ça qu'à l'époque moi je l'avais trouvé et lu, et c'est un bouquin qui balaye depuis la moitié du 19e siècle en parallèle l'histoire des États-Unis et l'histoire du crime sous ses diverses faces qui est lié, que ce soit au moment de la conquête de l'Ouest, que ce soit au moment de la répression anti-ouvrière vers 1917 et après, que ce soit au moment de la guerre des gangs, que ce soit après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 1990, disons.
Oui, à la limite, on pourrait enlever le criminel quasiment, hein, du titre. Hein. C'est une forme d'histoire des États-Unis. Donc, oui. Un premier conseil.
Voudrais-tu dire que la société est souvent criminelle?
Je laisse juger nos auditrices, nos les auditeurs. Et aussi dans cet édito, Hervé, tu cites en lien avec cette histoire criminelle des États-Unis, le romancier George Pelecanos et aussi Richard Price et David Simon, hein, pour un trio quand même qui s'inscrit du point de vue littéraire, hein, dans une forme de prolongement à cette histoire criminelle des États-Unis, un prolongement version littéraire, bien sûr.
Tout à fait, un prolongement littéraire et cinématographique, puisque par ailleurs, David Simon, il est à l'origine de la série sur écoute, The Wire, qui a quand même nettement marqué. Et puis avec comme scénariste justement des gens comme Pelecanos et Richard Price, ce qui d'ailleurs est une annonce, une sorte de raccord avec le livre dont on parlera
tout à l'heure. Oui, j'ai noté, voilà. Et nous y reviendrons.
Bien joué, Guy. avec Dodgers, oui.
Nous y reviendrons, Hervé.
Oui.
On ne va pas pouvoir, hein, je dis tout de suite à nos auditrices, nos auditeurs, aborder le contenu intégral de cette revue. Il est vraiment très très riche et encore une fois, hein, plein de pistes de lecture. Peut-être, Hervé, est-ce que cette revue, les articles sont disponibles sur le blog de 813? Est-ce que on peut...
Non. Comme la revue est... la revue, elle est notre dernière parution. On peut se la procurer. Là, pour ça, il faut aller prendre les renseignements, effectivement, sur le blog de 813, sur lequel il y a des infos sur l'actualité polar tous les jours, mais à peu près tous les jours ou tous les deux jours. Mais les textes sont pas en ligne.
Les textes sont pas en ligne. Donc
non,
voilà.
Non. Pour l'instant, voilà.
Alors si ce n'est quand même.
La revue est disponible, elle.
Si ce n'est, on invitera par contre les auditrices, les auditeurs peut-être à aller voir sur le blog, si ce n'est la présentation de la sélection pour les trophées 813 2016.
Tout à fait.
Donc là, 5 romans français, 5 romans littérature étrangère, bien sûr, noire, et puis aussi le prix Maurice Renaud et le trophée bande dessinée. Donc une sélection, encore une fois, vraiment, on en parlait, hein, en préparant cette émission, Hervé, qui nous semble très très riche et vraiment collée parfaitement avec l'idée de ce qu'on se fait de la littérature noire. Hein, et j'insiste bien sur
qu'elle soit policière ou pas, mais c'est-à-dire avec ou pas un enquêteur, mais oui, c'est quand même un grand plaisir, puisque là ce sont les adhérents de 813 qui votent et qui choisissent, et que j'allais dire que par exemple, quand je regarde les finalistes français, étrangers c'est pareil, mais il n'y a pas du tout la présence des phénomènes de mode, de ces romans thrillers un peu fabriqués de toutes pièces, qui sont juste là pour faire, qui sont forcément haletants, comme on le dit souvent, quatrième de couverture, et qui sont là juste pour faire un peu palpiter, et dont en général, deux semaines après, vous avez à peu près oublié l'atmosphère, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, et les personnages parce qu'ils n'étaient guère incarnés, ils n'avaient pas beaucoup de chair et pas beaucoup d'épaisseur. Et donc là, voilà, quand je vois les 5 Français, enfin comme toi, Guy, dans l'ordre alphabétique, Pascal Dessin, D.O.A., Patrick Péchereau, Christian Roux et Antonin Varenne, ça fait juste plaisir que les gens mettent ces 5 livres en compétition. Voilà.
Alors le trophée sera remis lors de l'Assemblée Générale, hein, qui aura lieu au Festival de Lamballe.
Lors de l'Assemblée Générale à Lamballe,
au mois de novembre.
Les 20 novembre.
Voilà, c'est ça. Donc on en parlera dans Variation en noir après.
Hein,
on vous donnera, bien entendu.
813 aura à l'issue de cela un nouveau président. Voilà.
En plus.
Oui.
Donc on en profite, on a encore le président de 813 avec nous pour ce début de saison radiophonique. Avant d'aborder le dossier, hein, Paulin, troisième Deuxième Reich. Une première remarque, Hervé Page, donc c'est la page 3, oui, voilà, il y a une traditionnelle photo hein, de Romain Slocombe en illustration d'un petit extrait d'un livre. Alors là, bon, deux remarques par rapport à cette photo. Donc le texte, c'est un extrait d'Or Noir de Dominique Manotti. Il arrive à l'allée la plus reculée, proche de l'entrée des voitures, cherche la grosse Peugeot de Simon, le numéro 2 de la Sommaire, avec qui il a rendez-vous. Et la photo, si je ne m'abuse, c'est une grosse voiture, mais c'est une grosse Citroën. Et qui est une très belle photo. Mais alors, surtout, quand même, hein, ce qui est intéressant pour les...
Voilà un fin lecteur et observateur qui a vu ce décalage.
Voilà. Bon, un premier décalage, mais pour nous qui sommes ici dans le Pas-de-Calais, dans le département du Pas-de-Calais, observer que la plaque d'immatriculation de cette voiture, hein, utilante, cette traction avant, 5175 WL, et le département, c'est le 62. Donc c'est un joli clin d'œil de 813.
Écoute, on recule devant, rien.
Au Pas-de-Calais, voilà. Donc, petit clin d'œil, hein, donc, à 813, et au lien entre 813 et Arras, c'est le Pas-de-Calais. Alors, donc, Hervé, un dossier sérieux, hein, mais vraiment très très riche et très surprenant. Hein, le Polar et Troisième Reich. Alors on a déjà évoqué cette question à l'occasion de la sortie d'un livre de Vincent Platini. Je signale tout de suite que le dossier a été coordonné par Gwenaël de c'est ça
Oui, Gwenaël de Noyer,
voilà.
Et donc des débats, des tables rondes du 1er mai à Arras.
Voilà, et que l'on rencontre régulièrement aussi au salon du livre. Et donc et un dossier qui s'appuie donc bien entendu sur les travaux de Vincent Platini qui écrit deux articles, L'arme des ombres, Ein Reich, Ein Krimi, et aussi un portrait d'Adam Kukhoff, un guérillo littéraire. Et donc, on s'aperçoit en fin de compte que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il existe sous le Troisième Reich un roman policier, et un roman policier notamment subversif, Hervé.
Oui, parce que c'est ça qui est très intéressant, qu'on avait déjà, dont on s'était rendu compte avec les travaux parus il y a 2 ans de Vincent Platini, c'est que, et sur lesquels il revient là, c'est que on avait l'idée, moi j'ai vécu pendant longtemps avec cette idée qu'on lisait d'ailleurs dans les dictionnaires, les articles, etc. C'est-à-dire qu'en gros, en Allemagne, le crimi, qui est le criminal roman, qui a une vieille tradition, sous le Troisième Reich, en gros, oui, il était totalement un féodé au système, ou alors d'autres disaient qu'il était un peu mis sous le boisseau, enfin bon, voilà. Or, il n'en est absolument rien, c'est-à-dire que le crimi, il a largement existé sous le Troisième Reich, et avec une certaine, si on peut dire, liberté, parce que on a tous, et c'est ça qu'il faut, c'est un peu la focale, on a tous l'idée que les nazis brûlaient les livres, mais ils ne brûlaient pas n'importe quel livre, c'est-à-dire que les photos d'autodafé qu'on a tous en tête, sur nos rétines, ils brûlaient ce qui leur apparaissait comme de la littérature dangereuse, donc de la, entre guillemets, grande philosophie ou grande littérature. Donc on sait bien les noms de ceux qui sont comme ça partis en fumée sur des bûchers, mais le criminal roman, qui était économiquement quelque chose de très très vendeur en Allemagne, et donc ça a aussi son importance, on n'arrête pas comme ça une industrie qui marche, d'un autre côté, il paraissait énormément de polars, et donc qui aux yeux des dignitaires nazis n'avaient pas d'importance, c'est-à-dire c'était des livres, ils n'allaient pas perdre du temps pour aller scruter tout ce qu'il y avait là-dedans, ce qui fait que le roman criminel a continué à paraître, je crois même que ses parutions ont augmenté sous le...
Ah oui, avec des tirages impressionnants, hein, d'ailleurs.
Voilà, complètement, des tirages absolument hallucinants, Et à l'intérieur de cela, il y a deux choses de toute façon, c'est-à-dire que même si les nazis, avec au fil du temps, parfois Goebbels était un peu attentif à cette à cela et à l'intérêt qu'il y avait. Alors évidemment, il y a des auteurs qui s'en sont un peu servis comme une certaine propagande, mais la plupart des textes, de toute façon, étaient même pas malgré leurs auteurs, mais témoignaient de leur époque, on pouvait y trouver des choses intéressantes et tout ça. Et de l'autre côté, et Adam Kukoff, que tu citais, en fait partie, il y avait des auteurs qui ont fait passer à l'intérieur des romans, j'allais dire, des idées en contrebande. Enfin voilà, et donc c'est particulièrement intéressant de découvrir cette tout cet aspect-là, tout ce qu'il reflète de l'époque du nazisme, et puis voilà, c'est vraiment un éclairage nouveau que Vincent Platini a donné.
Et alors le portrait là d'Adam Kukoff, il est vraiment très intéressant et impressionnant, hein, intellectuel marxiste, résistant anti-nazi, Adam Kukoff donc n'a jamais distingué son engagement politique de sa pratique d'écriture, et ses textes policiers sont parmi les plus fines critiques du régime hitlérien. Une œuvre de combat, hein, écrit Vincent Platini derrière les lignes ennemies. Et malheureusement, alors on n'a pas la traduction, hein, du roman.
Je conseille on trouve toujours l'étude que Platini a publié il y a 2 ans chez un éditeur toulousain, Anacharsis, un livre qui s'appelle Le Crimi, une anthologie du récit policier sous le Troisième Reich, qui avec des textes de présentation et de mise en situation de ce genre romanesque sous le nazisme, propose de longs extraits traduits de l'allemand par Platini, et donc c'est très intéressant d'aller lire ça, mais c'est malheureusement tout ce qu'on a de disponible. Je sais que Vincent essaye de convaincre des éditeurs français de publier notamment Adam Kukoff.
Bah oui, tout au moins un de ses romans. Alors il y a aussi un article de Marc Blanchet là sur qui considère qu'après la guerre, les romanciers, alors on reste dans le crimi, hein, le roman policier, le roman noir allemand, avec une appellation qui est intéressante, hein. On parle pas de roman policier, on parle de crimi en Allemagne, hein. C'est à noter. Oui. Donc après la guerre, les romanciers.
Et d'ailleurs, je sais que ce serait très compliqué à imposer ici, mais ce qui est une appellation extrêmement juste quand même.
Tout à fait.
Parce que qui définit le genre qui nous intéresse, bah c'est à partir du moment où il y a le crime et les dérèglements que cela introduit et le paroxysme des situations, puisque on sait très bien que le terme, par exemple, de roman policier, c'est pour ça que tu as raison d'employer roman noir, le terme de roman policier est devenu obsolète. Enfin bon, voilà, parce que beaucoup des livres, y compris que nous chroniquons ensemble, que tu chroniques, qui m'intéressent aussi par ailleurs, sont des livres où il n'y a typiquement pas de policiers ni même de détectives.
Alors donc Marc Blanchet écrit: après la guerre, les romanciers d'Allemagne de l'Est vont se heurter au même dilemme que leur homologue sous le Troisième Reich. Comment écrire des fictions policières dans un pays où l'État a décidé que le crime n'existe plus? La figure exogène du nazi, forcément liée à l'Ouest capitaliste, va alors se révéler bien pratique. Effectivement, hein, il faut quand même trouver une cible, un objectif d'écriture, et donc ils se sont bien entendu retournés sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et sous le Troisième Reich en Allemagne. Alors toi aussi, finalement,
Hervé, bien évidemment, puisque pour compléter, le propre même que ce soit, alors là, sans aller plus loin dans des parallèles, mais le propre même du nazisme et puis après de pays de l'URSS ou bien des pays sous le joug du stalinisme, c'est le fait que, par définition, le crime n'y existe pas, puisque la société de la façon dont la pensent leurs dirigeants, la société est idéale, donc il n'y a pas de crime, donc il faut trouver d'autres d'autres biais.
Voilà. Voilà. Alors donc toi, tu nous donnes un article. Alors tu commences en écrivant que loin d'une recension exhaustive de tous les romans policiers français ayant traité, certains plus directement que d'autres, du Troisième Reich, c'est une promenade littéraire que 813 vous invite. Grâce à toi, Hervé. Bon, je pense qu'on n'est pas loin de l'exhaustif quand même, hein, parce que cette
c'est
enquête
gentil,
est d'une grande richesse. Je regarde 2, 3, 4, 5 pages. Je pense que tu as labouré ta bibliothèque et aussi la bibliothèque des littératures policières à Paris, parce que bon, on a vraiment un panorama très 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 précis de ces écrivains français qui sont revenus sur l'occupation. Et bon, on va pas tous les citer, bien entendu, hein, on vous invite à lire, à consulter, hein, cet article. Mais c'est vrai que moi j'ai le souvenir, bon, ben, tu cites notamment Frédéric Dard avec un roman La Crève, donc il n'est pas un San Antonio, mais il me semble, Hervé, que les premiers San Antonio, les premières enquêtes du commissaire San Antonio, elles se déroulent pendant l'occupation en France.
Oui, je crois également, c'est pas, pour être franc, c'est pas le pan de Frédéric Dard que je connais le mieux. Mm-hmm. Moi, je connais mieux ses romans sous son nom. Mais je crois que tu as raison. Ce qui est intéressant quand même, c'est cette espèce de mouvement de bascule, c'est-à-dire qu'il y a Frédéric Dard et d'autres, il y a des auteurs qui ont écrit à chaud des romans au sortir de la période de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation. Mais à l'époque, c'est le fait qu'ils n'aient pas, ils n'avaient pas d'écho parce qu'on n'était pas, j'allais dire, je crois, je les appelle dans l'article les écrivains rabat-joie. Leur parole ne passait pas, il fallait tourner la page. Et c'est, au tournant des années 80, fin 70, début 80, que le polar va vraiment se repencher sur cette histoire-là. Et c'est pour ça que je l'appelle un polar hanté par l'occupation, parce qu'effectivement, jusqu'à de toutes récentes parutions, comme le Adieu Lily Marlène de Christian Roux, ou d'autres textes, différentes manières d'aborder la période, de se saisir de moments peu connus. Il y a un court roman de Didier Deninck, Caché dans la maison des fous, par exemple, qui est sorti cette année. Enfin voilà, il y a toujours des endroits, des moments, des personnages. Ben le splendide Après la guerre d'Hervé Lecor, qui lui revient sur le Bordeaux de l'occupation et des années qui suivent. Enfin voilà, on sent qu'il y a là une très forte matière romanesque qui existe et qui inspire.
Donc voilà, pour ce numéro de la revue 813, les publicités, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a au moins 2 publicités, mais qui on en reparlera, hein, de ces publicités, oui, qui incitent à lire. Donc avec numéro 125, avec un dossier...
On en reparlera. Juste une chose, il y a aussi un entretien avec un auteur italien, un auteur calabrais que je recommande beaucoup, qui est Mimmo Gangemi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en table ronde à Villeneuve-les-Avignon le week-end dernier. La revanche du petit juge et le pacte du petit juge, c'est particulier. D'abord, c'est d'une finesse d'écriture remarquable, et en même temps, c'est une manière d'évoquer une Calabre mal connue et le rôle et l'histoire de la mafia du territoire là-bas, la 'Ndrangheta, qui est... voilà, c'est une belle découverte, ça.
Voilà, donc dossier polar et Troisième Reich, et on souffle un petit peu.
Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille. sous le soleil du rail, les souvenirs m'assaillent. Aïe aïe aïe, il y a des couillonnes qui parlent d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition. Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles où que j'aille.
Et c'est Seigneur Boy,
sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille.
Et c'est Seigneur Boy,
j'ai gardé de mes batailles croix gammées et médailles en émail, et toujours ces couillons qui parlent d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition.
Et c'est Seigneur Boy,
j'ai ici de la canaille qui m'obéit au doigt, à l'œil et à l'œil.
Vous écoutez Radio PFM, Variation en Noir dans Variation, avec Variation en Noir avec Hervé Delouche, président.
Alors c'était extrêmement raccord hein, quand même.
Ah, tu as vu ça hein, donc,
ah oui, c'est, ça, c'est, le, cette chanson tirée, je crois, de Rock Around the Bunker de Serge Gainsbourg.
Voilà.
C'est, oui, ça.
Donc, Variation Noire avec Hervé Delouche, le président de 813, l'Association des Amis des Littératures Policières. Alors, Hervé, il ne reste plus beaucoup de temps. Il nous reste 3 ou 4 minutes pour parler d'un roman dont on avait beaucoup envie de parler. Donc, ça s'appelle Dodgers de Bill Beverly, policier seuil. Alors, on va commencer par la fin, par la quatrième de couverture. Une citation de Donald Repolo, qui est une référence aussi dans les littératures que l'on apprécie. Avec son rythme soutenu et son intrigue impeccablement maîtrisée, un des plus grands polars littéraires que vous lirez jamais, hein, c'est pas rien. Et puis donc aussi en quatrième, on y reviendra, aussi en quatrième de couverture, roman noir écrit au cordeau, voyage initiatique qui infléchit les destinées. Dodgers fait penser à The Wire et à Clockers. Mieux, il y a là une tonalité poignante, une poésie tragique, un je ne sais quoi d'électrisant tout à fait unique. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas pour quelque chose dans la quatrième de couverture, Hervé, tu n'aurais pas, hein, puisque on retrouve un petit peu ce que tu écris dans l'édito de la revue 813.
Non, alors il n'y a aucun lien, non, pas du tout, mais effectivement, là, quand on préparait l'émission, moi aussi, évidemment, j'ai pensé à ce rapport-là. Il y a une chose qui est quand même, qui est absolument remarquable dans l'histoire et la construction de Dodgers, c'est le fait que ça commence, alors comme Clockers, comme une des saisons de The Wire, ça commence à Los Angeles, dans ces bars, enfin c'est des bars, pas les cafés, hein, ces endroits, je crois que ça, dans le roman ça s'appelle les boîtes.
Oui, c'est ça.
Et on a des
lieux de deal, on va dire ça comme ça. Hein.
Voilà, c'est des lieux de deal, qui sont évidemment tenus par des gangs
avec des guetteurs qui sont très jeunes, et donc là on suit en quelque sorte le parcours
une
quinzaine d'années
à partir de 12 ans et on va pour aller vite on a toute une première partie qui se passe comme ça dans ces quartiers-là, avec du deal, avec de la violence, et qui met en scène un jeune black de 15 ans, je crois, qui s'appelle East. Mm-hmm. Et puis, on va pas évidemment pas raconter
non.
Des choses ne vont pas tourner comme prévu, et East il va y avoir un basculement du récit puisqu'il va être amené à prendre la route avec trois autres gars dans un monospace et qui va leur faire traverser les États-Unis direction au départ je crois le Wisconsin. Alors autant à Los Angeles il fait chaud, autant ils vont retrouver de la froidure, mais ils ne vont pas trouver que cela. Et la deuxième partie, cette espèce de road story, je crois que la deuxième partie s'appelle le monospace d'ailleurs. Il y a tout leur rapport, il y a tout aussi leur confrontation à un monde qu'ils n'auraient jamais imaginé. Ils n'ont connu que les quartiers pauvres de LA, et tout ça c'est absolument remarquable. Mais je te laisse la parole.
Oui, non, mais bon, sur l'histoire, on va dire que ce jeune est envoyé en mission, effectivement initiatique, hein, quelque part, à faire ses preuves. Il est envoyé dans le Wisconsin, il finira en Ohio d'ailleurs, afin d'éliminer un juge, un témoin. Donc, mais je reviendrai.
Il a un contrat à faire pour se racheter d'un qui a mal tourné à LA.
Voilà, revenir sur les mots de Donald Ray Pollock, et on conclura là-dessus, Hervé, tu me donneras ton avis, qui parle de grand polar littéraire. Alors on peut se demander ce que c'est qu'un grand polar littéraire, mais enfin, moi je me suis dit qu'en fin de compte, ce livre c'était de l'anti-thriller, de l'anti-roman voyeur, hein, où le lecteur était un voyeur de la violence, dans la mesure où les faits les plus violents, et il y en a un certain nombre dans le roman, sont traités sans aucun effet, j'ai envie de dire, de suspense, de mise en scène particulière. Et finalement, c'est pas ça le plus important du roman, c'est tout le reste. Je sais pas ce que tu en penses.
J'ai eu exactement le même sentiment, c'est-à-dire que ces événements-là, aussi criminels et durs soient-ils, ils font partie de la route, de la quête, et ça ne les minimise pas, mais ce qui compte, c'est ce personnage vraiment remarquable de East, qui par ailleurs fait des choses énormes, et en même temps est un gamin, enfin est un ado, et puis c'est sa confrontation avec un autre monde que son monde de départ, d'enfance et d'adolescence, sa confrontation avec de nouveau d'autres individus, lui qui a appris à ne faire confiance à personne, vu les activités auxquelles il se livre. C'est tous les rapports entre ces gars sur la route, c'est une très belle épopée de ce qui est dit dans le livre, une bande de Kaira de plus sur la terre d'Amérique.
Voilà. L'histoire
ça transcende complètement ça.
Et aussi l'histoire, une terrible histoire de deux frères. Mais bon, on n'en dira pas plus. En tout cas, on vous invite à lire ce livre, Bill Beverly, l'auteur, et le titre, Dodgers en seuil policier.
C'est un premier roman, ça en faut plus. Le signaler, donc c'est très prometteur.
Voilà, c'était Variation en noir sur Radio PFM, dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche, son président, j'insiste. Merci à Bernard de nous accueillir toujours aussi amicalement dans son émission. Hervé, au revoir et rendez-vous dans un mois pour de nouvelles Variations en noir.
Merci Guy, au revoir à tous.
Voilà, très bonne lecture en noir à toutes et à tous.
I got sidetracked in El Paso, stopped to get myself a map. I went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Then I went to sleep in Shreveport, woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some town halfway between. Wanted man in Albuquerque, wanted man in Baton Rouge, wanted man in Tallahassee, wanted man in Syracuse. And there's somebody sent to grab me anywhere that I might be. Wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me. Wanted man in California, wanted man in Ohio, wanted
man in Kansas City, wanted man in Buffalo, wanted man in Oklahoma, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man.